La faux a bien évidemment fait le tour du monde. Notre-Dame est l'un des monuments les plus connus, hein, vous le disiez, les plus visités de cette planète. Et cette notoriété est due en grande partie à Victor Hugo. Quand on pense à Notre-Dame, on pense à Quasimodo, Esmeralda, Frollo, Gringoire. Bonjour Henri Seppi.
Bonjour.
Vous êtes professeur de littérature française, spécialisé dans le 19e siècle, enseignant à la Sorbonne Nouvelle et donc grand connaisseur de Victor Hugo. Vous avez notamment édité l'an dernier Les Misérables dans la Pléiade. Vous avez vous-même écrit un essai sur Notre-Dame. Donc sans Victor Hugo, Notre-Dame de Paris ne serait pas aussi connue?
Ah, certainement, oui, il a contribué, en effet, vous l'avez dit, à donner à cet édifice un rayonnement, un relief, une profondeur, évidemment, qui outrepasse très largement la dimension architecturale, religieuse, et je dirais même d'une certaine manière horizontalement culturelle, c'est-à-dire qu'il a élevé cet édifice à la hauteur, il le dit lui-même d'ailleurs dans la préface de Notre-Dame, à la hauteur de l'œuvre du poète, donc c'est-à-dire à la fois la vision de l'historien et le système de l'artiste, dit-il. Hein. Donc tout cela est contenu, si vous voulez, dans le livre, qui devient d'une certaine façon le point d'appui de l'imaginaire collectif des Parisiens et des Français.
Un roman publié en 1831. Pourquoi a-t-il choisi Notre-Dame comme cadre de son roman, limite un personnage à part entière?
Oui,
c'est un endroit qu'il aimait tout particulièrement?
Alors c'est un endroit qu'il aimait. Évidemment, l'île de la Cité était un lieu qu'il connaissait bien. C'était le vieux Paris. C'était aussi l'époque, faut-il le rappeler, où le romantisme de 1830 était porté par cette vague, je dirais, de faveur, hein, donc pour la fin du Moyen-Âge et le gothique. Et il est vrai que ce livre contribue à une réinterprétation très positive du gothique, considéré par certains à l'époque comme un art assez sombre, donc il fallait reconsidérer, remanier. C'était aussi l'époque des projets de restauration que Victor Hugo considérait comme assassins, si vous voulez. Et le roman est aussi écrit dans le but justement de préserver ce patrimoine à l'heure où des projets, des campagnes prétendument de restauration visaient au contraire à défigurer les édifices de la capitale, y compris bien sûr Notre-Dame.
Donc on peut dire aussi qu'il a carrément sauvé Notre-Dame ?
On peut dire qu'il a contribué effectivement à préserver, en effet, Notre-Dame. Et le roman, bien qu'il mette en scène, vous l'avez rappelé tout à l'heure, des épisodes qui sont des épisodes guerriers, des épisodes de destruction de Notre-Dame, eh bien, est un livre qui, en vérité, essaie de démontrer qu'il y a nécessité, à travers l'histoire, et à ce moment précis de l'histoire, nous sommes en 1830, nécessité à préserver cet édifice, à le conserver tel qu'il est, sans vouloir en modifier la morphologie, en modifier l'aspect. C'était très important pour Hugo.
À quoi ressemblait Notre-Dame justement à l'époque de Victor Hugo? C'était la même que celle d'aujourd'hui?
Alors, si vous voulez, grosso modo, il y avait eu des transformations, évidemment, des restaurations avaient été entreprises, et on commençait à s'aviser que certaines de ces restaurations ne correspondaient pas vraiment à l'idée que nous pouvions nous faire alors de ce qu'était le génie français. Parce qu'il faut bien comprendre que le gothique était appelé à l'époque l'œuvre du génie français, opus francigenum. Hein. Et c'était très important de préserver cela. Et par conséquent, il y avait une forme qui est à peu près celle de la cathédrale d'aujourd'hui. Mais il a réussi dans ce livre à réinventer, à réinterpréter cette forme, et c'est là qu'est tout le génie du poète, si vous voulez, pour lui donner l'ampleur et le tourbillon de la vie de 1482, c'est-à-dire à la fin du 15e.
Et puisque l'histoire se passe effectivement au 15e.
L'histoire se passe à la fin du 15e siècle. Le roman s'ouvre sur une fête, une double fête, n'est-ce pas, qui est la fête des rois et la fête des fous, le 6 janvier 1482. Et c'est à cette occasion, en effet, que par une espèce de grand mouvement du regard, Hugo sillonne les grands lieux, disons, du Paris historique, pour arriver effectivement à Notre-Dame après un passage par la salle du palais, etc., par l'université, etc.
Et Victor Hugo a eu des mots prémonitoires hein, quand il décrit une grande flamme qui monte entre les deux clochers, avec des tourbillons d'étincelles, une grande flamme désordonnée et furieuse.
Oui, absolument. C'est une vision, disons, une prophétie peut-être, que sais-je. En tout cas, il avait imaginé en tout cas qu'une scène dramatique pouvait se déroulaient en ces lieux, notamment lorsque l'armée des Gueux attaque Notre-Dame, puisqu'il y a là aussi un enjeu, si je puis dire, politique, hein, autour de cette grande cathédrale, qui est détenue, faut-il le rappeler, par l'archidiacre Frollo, n'est-ce pas, qui est une espèce de personnage sombre, une sorte de Prométhée négatif, de Fauste diabolique. Enfin, Hugo retravaille aussi par imaginaire ces figures et reconsidère à travers justement le prisme grandiose de Notre-Dame, reconsidère toute la position dogmatique, doctrinale du clergé de l'époque. Hein. L'enjeu est là aussi. Hein.
Une dernière question, Henri Seppi. À part Victor Hugo, est-ce que d'autres auteurs se sont inspirés de Notre-Dame ?
Oui, bien sûr, oui. De toute façon, beaucoup d'auteurs ont écrit sur Notre-Dame, sur les cathédrales gothiques, et en particulier sur Notre-Dame. Avant Victor Hugo, quelqu'un qui n'aimait pas trop le gothique, hein, bien sûr, mais qui quand même a laissé des pages remarquables sur Notre-Dame, c'est Chateaubriand, dans Le génie du christianisme, hein, en 1802, lorsque il évoque en effet la grandeur de Notre-Dame, enfin les grandes cathédrales gothiques.
Vous nous donnez un autre nom pour finir ?
Allez. Oui, bien sûr, et puis il y a Huysmans qui a écrit, vous le savez, sur les églises gothiques et sur Notre-Dame, hein, Joris Carl Huysmans.
Et ben voilà, on peut relire Huysmans, voilà. Chateaubriand, voilà. Et donc...
Il y avait un point de vue différent d'Hugo, hein, quand même.
Victor Hugo. Merci beaucoup, Henri Seppi. Voilà. Je rappelle que vous êtes professeur enseignant à la Sorbonne Nouvelle et spécialiste de Victor Hugo. Vous étiez en direct dans le 5-7.